Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 30 avril 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré le premier ministre koweïtien. L'Iran a été un pionnier sur la voie de la coopération régionale et se félicite du changement de ton de l'Arabie saoudite, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Mosquée d'Al-Aqsa, l'armée d'occupation israélienne agresse des Palestiniens. France épinglée par le Conseil de l'Europe sur le harcèlement des journalistes. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre koweïtien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a brossé un tableau détaillé sur les pourparlers avec les 4+1 à Vienne, avant d'estimer que sa tournée régionale en pleine négociation de la commission mixte du plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien en Autriche, témoignait de l'attention particulière de Téhéran à ses relations avec des pays de la région et avec des voisins. Le chef de la diplomatie iranienne a rencontré ce jeudi 29 avril Sheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, premier ministre koweïtien. Les deux hommes ont discuté des questions d'intérêt de commun, des relations bilatérales et des évolutions internationales. Lors de cette rencontre, se référant aux relations irano-koweïtiennes dans divers domaines, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné la nécessité d'élargir et de renforcer les relations bilatérales de manière à exploiter pleinement les potentiels existants, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Mohammad Javad Zarif a souligné la nécessité des efforts conjoints de la République islamique d'Iran et du Koweït pour renforcer une ambiance de dialogue en vue de résoudre les problèmes et les défis existants et d'élargir la coopération multilatérale entre les pays de la région. Pour sa part, le Premier ministre koweïtien a réitéré sur le potentiel existant pour élargir la coopération bilatérale. Il a souligné le rôle productif du Koweït et la position de poids, en fait, de l'Iran. L'Iran s'est félicité du changement de ton de l'Arabie saoudite après des déclarations du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, disant souhaiter de bonnes relations avec Téhéran. L'Iran a été un pionnier sur la voie de la coopération régionale et se félicite du changement de ton de l'Arabie saoudite, a déclaré le porte-parole des affaires étrangères Saïd Khatibzadeh dans un communiqué en réponse aux déclarations du prince héritier saoudien. En adoptant des points de vue constructifs et basés sur le dialogue, ces deux pays importants de la région et du monde islamique peuvent surmonter les différends et lancer un nouveau chapitre de coopération pour parvenir à la paix, à la stabilité au développement régional, a-t-il ajouté. Mosquée d'Al-Aqsa, l'armée d'occupation israélienne agresse des Palestiniens. Les forces d'occupation israéliennes ont battu des citoyens palestiniens près de la porte de Bab al-Amoud menant à la mosquée sainte d'Al-Aqsa. Les forces d'occupation israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur des femmes et des jeunes hommes près de la porte de Bab al-Amoud à Al-Quds occupée, ont affirmé des témoins sur place à l'agence turque Anadolu. Deux jeunes Palestiniens ont été arrêtés après avoir été violemment tabassés par les forces d'occupation, alors que plusieurs autres Palestiniens présents près de la mosquée sainte ont été étouffés par la fumée des bombes lacrymogènes, a-t-on ajouté de même source. Depuis le début du mois de Ramadan, les jeunes Palestiniens protestent contre leur interdiction de mener la prière dans l'esplanade des mosquées, notamment la mosquée d'Al-Aqsa. Des dizaines de Palestiniens ont été détenus et blessés lors de violents affrontements avec les forces d'occupation. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Bachar al-Jafari, a souligné la nécessité de lever les mesures économiques occidentales coercitives et illégales imposées à la Syrie et d'y réaliser la situation d'une manière objective et correcte au lieu d'adopter des positions perdurant la crise, accroissant la propagation du chaos et du terrorisme et des ex de Torquan, le peuple syrien. Dans une allocution qu'il a prononcée via la vidéoconférence lors du Forum arabe international pour lever l'embargo et annuler les sanctions visant la Syrie, lequel est organisé par le Congrès national arabe et le Centre arabe international pour la communication et la solidarité à Beyrouth, avec la participation de plus de 250 personnalités arabes internationales, Jafari a fait savoir que le terrorisme économique et financier visant la Syrie n'avait pas débuté par les mesures économiques coercitives et unilatérales imposées actuellement par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays, mais il a commencé depuis les premiers jours de la guerre terroriste déclenchée contre la Syrie. Jafari a fait allusion aux attaques menées par les groupes terroristes soutenus par les mêmes pays qui avaient imposé ces mesures contre les bases de défense antiaérienne et les bases militaires dans les lignes de front avec l'ennemi israélien, en plus de l'assassinat des pilotes militaires et la prise possible des infrastructures et des ressources économiques. Les mesures coercitives reflètent une image claire de l'hypocrisie politique exercée par certains pays, comme c'est le cas en Syrie, puisque les pays qui ont imposé de ces mesures prétendent leur attachement au peuple des Syriens alors qu'ils violent la souveraineté de la Syrie, refusent de coopérer et imposent leurs mesures coercitives aux Syriens d'une manière se contredisant avec les principes de l'action humanitaire et de développement et entravant les efforts faits par l'État en vue de parvenir au rétablissement, à la reconstruction et à la fourniture d'un climat approprié pour le retour des personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, à leur maison et les réfugiés à leur pays, a-t-il souligné encore. Le Conseil de l'Europe a émis des chiffres inquiétants quant au nombre de cas d'atteinte à la liberté de presse sur le vieux continent et notamment en France, où les journalistes sont parmi les plus harcelés selon le nouveau rapport de l'institution. Tout en exhortant les gouvernements européens à enrayer de cette dégradation de la liberté de presse, le secrétaire général du Conseil de l'Europe a attiré l'attention sur une augmentation des cas de violence et d'intimidation contre des journalistes ces dernières années. Selon les chiffres du rapport, en dépit des alertes du Conseil de l'Europe lancées dans le contexte de la pandémie aux gouvernements européens en 2020, 201 alertes relatives à la liberté des médias ont été publiées sur la plateforme. Il s'agit là d'un chiffre le plus important jamais enregistré en une seule année, qui dépasse de près de 40% celui relevé en 2019, précise le rapport. La CEDEAO dit avoir souffert d'une contraction économique en 2020 en raison de la pandémie. L'Afrique de l'Ouest a indiqué jeudi avoir subi un ralentissement économique l'an dernier en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Contrairement à la croissance moyenne de 3,5% de son PIB avant 2020, la sous-région a enregistré une contraction de 2% l'an passé à cause de ce fléau, a ainsi relevé Jean-Claude Cassibrou, président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. CEDEAO. Selon lui, le secteur privé a été durement touché. De nombreux pays ont dû renflouer divers secteurs pour éviter leur effondrement. Nous espérons un retournement de situation en 2021, mais toute projection de croissance économique cette année dépend du succès des programmes de vaccination en cours dans presque tous les pays membres, a-t-il souligné. Il s'est néanmoins dit optimiste quant au fait que ces campagnes de vaccination contribueront à contenir la pandémie dans la sous-région pour faire place à une normalisation des activités socio-économiques. À l'avenir, a-t-il dit, l'Organisation ouest-africaine de la santé travaillera avec les ministres de la santé de tous les pays membres pour renforcer leur système de santé, former davantage de personnes de santé, mettre en place des mécanismes de détection précoce des menaces et faire face à celles-ci de manière efficace. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La Russie, l'Iran et la Chine peuvent combler le vide au Moyen-Orient, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Comme souvent, de ce que les politiciens n'osent pas dire, les militaires l'exposent ouvertement. C'était il y a quelques jours le cas pour Frank McKenzie, l'un des principaux hauts gradés de l'armée états-unienne et le chef du commandement central des États-Unis, CENTCOM, la structure du département de la défense US, responsable des opérations militaires des États-Unis au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud, qui a exprimé sa position auprès de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis. Plusieurs points méritant intérêt ont été soulevés dans ces déclarations, notamment du point de vue du rôle croissant des grandes puissances et des partisans de la multipolarité, à savoir l'Iran, la Russie et la Chine, qui ont été bien évidemment cités. En ce qui concerne Pékin et Moscou, McKenzie affirme que les deux pays pourraient remplir le vide dans la région stratégique du Moyen-Orient, évidemment dans une constatation américaine de la réalité pour les États-Unis. Les deux pays tirent parti de leur proximité avec la région, de leurs relations historiques et d'un déclin perçu des États-Unis afin d'établir et de renforcer des relations opportunistes. Tout en précisant que, selon lui, la Russie joue le rôle de poilée pour les États-Unis en utilisant des moyens militaires, des opérations d'influence, des activités de la zone grise pour saper et perturber l'influence américaine. La Chine, en revanche, utilise principalement des moyens économiques pour établir des routes régionales dans le but à long terme d'étendre sa présence militaire et ainsi sécuriser les routes vitales de l'énergie et du commerce. Pour le général américain, le Moyen-Orient a été toujours un carrefour d'intérêts mondiaux et une arène historiquement privilégiée pour les puissances étrangères afin de rivaliser pour leur influence, leurs ressources et leur accès. L'Iran n'a pas été lui aussi oublié. En effet, la République islamique d'Iran représente sans le moindre doute, au même titre que Pékin et Moscou, un défi de taille pour Washington dans la région. McKenzie prétend que l'Iran représente une menace quotidienne pour les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient, alors que la supériorité militaire d'Américains dans la région diminue. L'autre citation très révélatrice, toujours en rapport avec Téhéran, est la suivante. L'utilisation généralisée par l'Iran de drones de petite et moyenne taille pour la surveillance et les attaques signifie que pour la première fois depuis la guerre de la Corée 1950-1953, nous opérons sans supériorité aérienne totale. Une constatation de la réalité qui peut sonner comme un véritable son de cloche des plus alarmants.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Nous allons essayer de répondre à une question très particulière qui est la suivante. Est-ce que Israël a le droit de capturer un meurtrier d'une femme juive après avoir fait irruption chez elle, la tuer à couteau, donc à coup de couteau en 2017? Bien sûr, il s'agissait d'une personne déséquilibrée et délirante. C'est pour ça qu'il se trouve depuis dans un centre psychiatrique sous la surveillance étroite de la police. Alors, il a été reconnu coupable en Israël, mais Israël ne veut pas attendre la procédure d'extradition vers Israël, car Israël pense que cette procédure est trop longue. Nous allons nous pencher particulièrement sur la question suivante. Pourquoi Emmanuel Macron, le président français, évidemment, sous la pression israélienne, veut changer la loi, car il pense que cette loi concernant les personnes déséquilibrées, quand elles commettent des crimes, sont évidemment très légères. Alors, très sincèrement, donc, on voit ici la pression israélienne, la colonisation d'Israël en France, car on voit très bien ce pion qui est Emmanuel Macron vis-à-vis d'Israël et des États-Unis. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions à l'aide des experts de questions internationales en disant bonjour à M. Philippe Hugon, expert de questions internationales et reporter de guerre. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Et bonjour aussi, un grand salut à vos auditeurs et à M. Hugon, que j'estime particulièrement.
Un plaisir de vous recevoir, M. Dortiguier. Ma première question va s'adresser à vous. Alors, comment un président français se permet de compromettre la Constitution alors qu'il fait partie du pouvoir exécutif, de s'ingérer dans le pouvoir judiciaire en exigeant le changement de loi, car il s'agit encore une fois d'une victime juive?
Eh bien, cela signifie que, contrairement à une formule du théâtre classique chez nous, M. Macron n'est pas maître de lui comme de l'univers. C'est-à-dire qu'il est, en réalité, il dépend de forces qui l'ont porté au pouvoir, qui le maintiennent au pouvoir, et surtout, il est le chef d'État d'un pays, de notre propre pays, qui est évidemment de plus en plus affaibli sur tous les plans, sur le plan surtout financier. Et donc, on peut dire que il est naturellement soumis à des pressions, et cette pression du reste n'est pas simplement le fait du tempérament, enfin de M. Macron, c'est-à-dire ce n'est pas sa fragilité qui est en question simplement, ni même celle du pays. C'est un processus également qui est inscrit, il faut le dire, dans la Constitution, non pas écrite, voyez-vous, mais dans l'esprit de la formation de l'État d'Israël, qui a été, vous savez, créé comme État sur la demande soviétique. Il faut toujours le dire, pas américaine, mais c'est Staline lui-même qui a demandé par Gromyko aux Nations Unies la formation de cet État sous des prétextes de réparation morale. Et donc, il y avait cette idée morale. Ce n'est pas du tout simplement un État qui rassemble des colons sionistes. C'est un État qui prétend, avec le titre d'Israël, justement, parler au nom des Juifs en général, une sorte de Vatican, si je puis dire, du judaïsme, comme il y a le Vatican des catholiques, et donc se permet, disons, de juger indigne d'être d'être appréciée, disons, des cas concernant les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs dans le monde sont des, si je puis dire, aux yeux des fondateurs de l'entité de l'État, pas si bien de l'État d'Israël, sont des sujets, disons, de l'État d'Israël, des sujets, disons, potentiels. Et alors là-dessus, évidemment, on ne met pas ceci très bien en évidence, vous voyez. C'est écrit, je n'ai pas que ce soit écrit tellement dans la Constitution, c'est un état d'esprit, voyez-vous. C'est la philosophie, si je puis dire, de la philosophie politique de cet état-là, et qui ne fera que s'accroître, à mon avis, de plus en plus, puisque, il, bien sûr, dans l'affaire en question, il y a une grosse erreur. C'est l'erreur que commet M. Macron aussi, pourtant qui a été licencié de philosophie, je crois, il est plus jeune que moi, et donc il n'a pas eu cette formation que nous avions, nous, en licence de philo, en psychopathologie, c'est-à-dire formation pas du tout psychanalytique, c'est une formation, disons, à l'hôpital, et on m'a présenté d'ailleurs des cas de schizophrènes à l'hôpital qui sont capables de tuer les gens qu'ils aiment, voyez-vous. Et donc ce n'est pas du tout, comme l'a dit un avocat parisien, le fait d'absorber des drogues qui vous enlève le jugement, ou ce qu'on appelle le discernement. Non, il y a des maladies mentales très profondes, voyez-vous, qui font que cet homme, d'ailleurs, en question, qui était un ami, je crois savoir, une relation, disons, de la dame qu'il a assassinée, qui est une connaissance, comme on dit. Donc, est dans cet état-là, et bien sûr, les experts internationaux, en Israël, en France, le savent. C'est une agitation, si je puis dire, une agitation pour faire un pas supplémentaire, voyez-vous. Je conclurai là-dessus. Tout le monde sait qu'il va y avoir des troubles en Europe, dans le monde. Les situations que nous connaissons aujourd'hui ne peuvent pas durer ainsi. Monsieur Hugon, je crois, le reconnaîtra aussi. Mais l'État d'Israël prend ses précautions, voyez-vous, et veut apparaître comme le refuge, si je puis dire, de tous les Juifs. Hein. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont contre. La grande majorité, à mon avis, du judaïsme français n'est pas d'accord. Mais disons, peu importe son avis, c'est une puissance colossale, voyez-vous, puissance doctrinale. Vous savez, en toute chose, il ne faut pas regarder seulement la matière, il faut regarder aussi les idées. Et Israël est fondé sur des conditions matérielles, mais également sur une idée ancienne. C'est l'idée de l'Ancien Testament, vous savez, et c'est pas moi qui vous apprendrai ce qu'il y a dans la Bible, hein, bon, nous le savons très bien. Et Israël se prépare à être l'héritier, voyez-vous, des anciens prophètes, etc., et donc commandé à avoir une fonction, si je puis dire, un peu religieuse, voilà. C'est pas seulement laïque, mais religieuse. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là.
Merci, M. Dortiguier. À présent, je m'adresse à M. Philippe Hugon. M. Hugon, vous êtes un homme de terrain, vous êtes reporter de guerre. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons entendu les propos de M. Dortiguier concernant l'ingérence et la pression israélienne dans les affaires intérieures et extérieures de la France. Mais j'aimerais que vous fassiez vivre le débat d'aujourd'hui en livrant votre analyse sur la question.
Oui, alors je crois qu'il faut séparer ce volet en deux parties. Il y a d'une part la partie psychiatrique, c'est-à-dire l'état mental de la personne qui a commis cet attentat, et d'autre part le deuxième volet qui est un volet politique. Alors sur le plan médical et psychiatrique, je dirais qu'il y a des experts qui sont capables de pouvoir juger l'état de la personne qui a commis cet attentat. Bon, sur ce point-là, on peut se mettre d'accord avec les psychiatres pour juger de l'état de la personne. Après, il y a le volet politique qui est un volet beaucoup plus important, puisque là, on sait qu'Israël, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a toujours joué sur la culpabilité des pays européens et des États-Unis sur la question juive et sur la culpabilité des pays qui ont laissé faire le régime nazi, hein, ou du moins qui ont eu une certaine complaisance avec ce régime nazi. Alors sur un plan politique, je dirais qu'Israël ne tient plus du tout compte et des choses comme celle-ci et se sert justement de cette culpabilité pour pouvoir imposer un certain nombre de choses au monde occidental. Et on le voit bien aujourd'hui, et c'est patent, quand Israël se permet d'ingérer dans les affaires françaises, mais pas seulement françaises, hein, dans toutes les affaires européennes et les affaires américaines, pour imposer leur vision de la politique et des sanctions qu'ils veulent appliquer à un certain nombre de pays. justifie cet attentat avec des commis par un Africain et que quand l'État africain demande comment que cette personne soit rapatriée en Afrique, je pense que la demande aurait été nulle et non avenue. Personne n'aurait tenu compte de cette demande. Là, on en tient compte parce que c'est Israël, parce qu'Israël représente financièrement et économiquement certains poids, notamment aux États-Unis et un petit peu, bien sûr, dans l'Union européenne. Donc, on tient compte également de cette avis. Des responsables politiques israéliens. Néanmoins, Israël a l'habitude d'ingérer dans les affaires intérieures d'un grand nombre de pays. Hein. On l'a vu à travers les décennies passées, des officiers des services secrets israéliens, du Mossad, venir assassiner des gens, venir enlever des gens dans des pays et ingérer comme ça. Donc moi, je ne suis absolument pas surpris que la présidence française, et notamment Emmanuel Macron, qui n'est, je dirais, pas vraiment un président, mais qui est plutôt en pantin dans les mains des financiers et dans les mains des Israéliens, donc on ne peut pas compter du tout sur la politique étrangère française, qui n'a plus aucune autonomie, qui n'a plus aucune indépendance. Donc, je dirais, quelque part, c'est la suite logique d'une politique menée par la France depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, de se plier aux exigences d'Israël, en faisant, bien sûr, de la part des dirigeants israéliens, culpabiliser depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale les pays, les responsables politiques des pays occidentaux, afin qu'ils cèdent à leurs exigences. Ce qui est un peu gros aujourd'hui, de pouvoir accepter quand même ce genre d'ingérence. Et moi, je trouve ça extrêmement triste de la part d'un grand pays comme la France d'accepter ces exigences israéliennes.
Pierre Dortigui, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Hugon quand il parle d'une politique dépendante d'Israël, une politique extérieure et intérieure de la France, aller jusqu'à compromettre la Constitution, pousser un président français de s'ingérer dans le pouvoir judiciaire d'un pays et donc exigeant un changement de loi. Est-ce que la France connaît vraiment ses intérêts et où est l'intérêt de la France d'écouter aveuglément ce que Israël dit?
Eh bien, l'intérêt de la France, c'est la menace. C'est-à-dire que vous savez, il y a deux aspects dans une organisation. Une organisation d'un État, par exemple, est créée pour maintenir l'ordre chez lui, mais il peut également, disons, avoir intérêt au désordre chez ses voisins. Et n'oubliez pas quand même que la première petite révolution que nous avons connue, mais qui a été très importante en France après la guerre, c'est-à-dire le bouleversement de 1968, a été fait quand même par des gens qui étaient assez proches quand même des milices israéliens. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle qui le dit dans ses mémoires. Il parle, par exemple, de ce qu'avait fait la Ve République pour se dégager de l'influence israélienne, qui était très forte sous la Quatrième. Il racontait que le ministère, par exemple, des armées, boulevard Saint-Germain, était toujours visité par des officiers israéliens, etc., et qu'il avait arrêté, disons, cette influence. Lui-même a payé ceci, puisque mai 68 a été, en fait, une réponse israélienne à la politique d'indépendance de De Gaulle de 1967, voyez-vous. Bon, ça s'y est. Alors, on peut parler de la culpabilité, oui. Vous savez, comme on dit, rira bene qui rira ultimo, on dit en latin, en italien, rira bien qui rira le dernier, quand on fera le compte de tous les massacres des 19e, 18e et 20e siècles. Mais enfin, je crois dire que cette vocation qu'a l'État d'Israël, je le répète, une vocation qui n'est pas simplement locale, c'est une vocation générale. Ceci, d'ailleurs, n'est pas très bien vu en France, très bien compris, je dirais, de l'irréligiosité ambiante, voyez-vous. Nous manquons de ce point de vue de profondeur religieuse, en général, même dans les milieux qui se disent religieux, voyez. Nous sommes un peuple un peu léger. Et on n'a pas pris ça en considération, et pourtant c'est marqué. En effet, regardez, un homme comme Eichmann, par exemple, a été jugé en Israël. Bon, je me demande pourquoi il a été jugé en Israël particulièrement, puisque l'État d'Israël n'existait pas au moment où des actions qui lui étaient reprochées. Enfin, il y a des antécédents juridiques, voyez-vous. Et je crois que l'autorité israélienne, en France et en Europe, et dans le monde, moi je mets dans le monde, je dis bien le monde, pas simplement l'Ouest, mais l'Est, sera de plus en plus importante dans les temps qui viennent, à cause justement du désordre économique, du désordre social qui va venir croissant. Et ce n'est pas du tout une vision pessimiste que j'ai, c'est une vision logique. Je crois que si les Israéliens ont agi maintenant, c'est qu'ils savent que les temps sont mûrs. Voyez-vous, ce sont des gens quand même qui viennent de... Ce ne sont pas des gens qui viennent de rien, ce sont des gens qui ont des formations quand même intellectuelles, etc., solides, et connaissent très bien les systèmes. Et je crois qu'ils ils font un bon d'essai avec cette affaire de Mme Halimi. Et je crois que ce qui m'a frappé, ce n'est pas tellement l'attitude de la famille de Mme Halimi, c'est l'attitude de l'avocat, qui est un avocat connu du 16e arrondissement chez nous, très d'ailleurs d'un homme très intelligent, je dois dire, très actif, et lui-même, disons, a prétendu, par exemple, que, disons que c'est tout à fait normal que cet homme soit jugé par un État étranger, parce que l'État d'Israël défend, c'est pas un État territorial, c'est un État qui a une vocation de défendre des gens qui sont des Juifs à l'étranger aussi. C'est une vocation qui est marquée dans leur dogme. Et il faut comprendre ce que je veux répondre, c'est M. Hugon l'a bien vu cela, mais il faut comprendre les choses, non pas simplement par des intérêts matériels, mais également par des idées. Les idées mènent le monde, voyez-vous. Il y a de bonnes idées, de mauvaises idées, évidemment. Vous pensez bien que lorsque des Palestiniens se font massacrer, ils ne se font pas massacrer pour des raisons économiques, ils se font massacrer pour des raisons d'idées. C'est-à-dire qu'on estime qu'ils n'ont pas le droit d'être sur une terre sacrée. Mais ça, c'est marqué. Moi, je l'ai entendu dire combien de fois, quand j'étais à la Sorbonne, ils n'ont pas le droit d'être là-bas. C'est à nous que ça appartient. Bon, on peut concevoir cela, mais disons que, attendons le jugement dernier pour savoir si ces gens-là ont fait comme disait le président Giscard d'Estaing, ont fait le bon choix. Je ne crois pas. Je crois que c'est un choix qui n'est pas heureux, qui n'est pas juste et qui ne correspond pas du tout, d'ailleurs, au commandement de Dieu.
Oui. Monsieur d'Ortiguier parle d'un désordre économique et politique créé par Israël. Est-ce qu'on peut ajouter à cela le désordre sanitaire?
On peut bien sûr ajouter à ça le désordre sanitaire. Il faut bien savoir que le Covid est un virus qui a été délibérément lâché dans la nature de façon à pouvoir mieux contrôler les peuples, puisqu'on arrive à imposer par le domaine sanitaire des lois et des restrictions qui n'auraient jamais pu être mises en place pour des raisons économiques. Donc le désordre social, il va arriver, il y en a très longtemps, 8, 10, 12 ans, mais je pense que les Français n'imaginent pas, quand je parle des Français bien sûr, mais des Européens et du monde occidental d'une manière générale, je pense qu'ils n'imaginent pas à quel point leur vie va changer dans 10 ans. C'est assez incroyable, et les bouleversements qu'on va avoir dans les années qui viennent. Et à l'heure d'aujourd'hui, personne n'est prêt à le comprendre. Très peu de gens sont capables d'analyser les choses et de voir comment les choses vont évoluer, dans le mauvais sens, bien sûr. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, je dirais 80% de la population, n'imaginent pas les transformations des sociétés occidentales. Donc on va voir ce désordre social, ce désordre religieux, ce désordre économique. Et il faut savoir que la situation financière dans le monde occidental est catastrophique.
Philippe Hugon.
La France est en faillite, les États-Unis sont en faillite. Oui, je vous écoute.
Monsieur Hugon, est-ce que la France, particulièrement Emmanuel Macron, a le choix donc entre la bonne et la mauvaise décision? Est-ce que la France est colonisée par Israël?
Oui, ben on a toujours le choix. Ce n'est pas un problème de choix, c'est un problème de courage politique. Et Emmanuel Macron ne va pas couper la main des gens qui lui donnent de l'argent. Donc on ne peut strictement rien attendre d'un président comme Emmanuel Macron. Ce n'est même pas lui qui dirige la France. Ce sont des conseillers de l'ombre, des gens dont on n'entendra jamais parler dans les médias, mais ce sont eux, les réels décideurs et les réels gouvernants de la France. Emmanuel Macron ne fait que de suivre une politique qui lui a été imposée par la haute finance. Donc on ne peut absolument plus parler d'indépendance du pouvoir en France. Ce n'est pas vrai. Ça, toutes les personnes qui analysent un petit peu la situation politique en France peuvent dire la même chose. On n'a plus aucune indépendance, qu'elle soit économique, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit religieuse. On impose au peuple un certain nombre de choses et ça marche très bien. Le Covid-19 n'est qu'une répétition de ce qui arrivera dans quelques années en beaucoup, beaucoup plus grave. Donc, moi, je dirais que la situation dans sa globalité devient catastrophique. Et très peu de gens s'en rendent compte aujourd'hui. On arrive à endormir les gens avec des émissions de télévision qui abrutissent les gens, puisque la télévision, qui était un formidable outil de culture et de connaissance, devient un outil d'abrutissement. Et on se sert de tous ces médias, enfin, les politiques se servent de tous ces médias, pour imposer leur politique à eux, pas celle des peuples, mais leur politique à eux. Pour que les choses changent, il faudrait qu'il y ait une réelle volonté politique et un réel courage de modifier les données du problème. Mais aucun homme politique aujourd'hui n'aura le courage de pouvoir le faire. Ça, c'est une certitude.
Pierre Dortiguier, à votre tour, est-ce que vous croyez que le président français a le choix ? Où la France est obligée de se soumettre à la colonisation d'Israël?
C'est-à-dire que tout homme, bien sûr, a le choix de ses décisions. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien dire qu'il refuse, évidemment. On a une certaine liberté. Mais s'il veut rester au pouvoir et se maintenir, je crois qu'il est obligé de faire ce qu'il fait. Parce que c'est un homme qui est... je ne parle pas de la psychologie, bon... il a certainement des qualités d'administrateur, d'autres. J'ai dit une fois à votre radio qu'il n'était pas fait pour commander, il était fait pour obéir, pour suivre des lignes, mais il ne peut pas imaginer ou, disons, avoir une certaine liberté, disons, d'action. Je crois qu'il est un peu comme ces gens qui sont d'accord avec le dernier qui a parlé. Voyez-vous, c'est cette impression de faiblesse qu'il donne, et je ne crois pas dire qu'il pourra se maintenir au pouvoir une seconde fois. Je crois qu'il serait remplacé par certainement qu'il partirait avec la Ve République. C'est une idée que j'ai en tête, qui ne repose évidemment sur aucune connaissance particulière. Ce n'est qu'une impression d'homme qui a vécu, disons, le début de la Ve République, bien sûr. Je crois qu'elle est appelée à disparaître et à être remplacée, disons, par un système, disons, peut-être qui aura des allures de droite, entre guillemets, mais dans lequel, justement, l'influence israélienne sera de plus en plus forte. Je dois dire, autour de M. Zemmour, autour de gens comme ça, il y a véritablement, y compris dans l'armée française, je me permets de le dire parce que j'ai d'anciens camarades, des militaires qui sont d'anciens élèves, mais je dois dire que la propagande est très très forte, bien sûr, qui est dirigée contre l'islamisme, c'était en réalité, non pas contre le terrorisme, mais contre la religion musulmane, par exemple, là-dessus, et contre la religion en général, d'ailleurs. Vous avez, disons, des tendances qui sont beaucoup plus obscurantistes chez nous, que nous ne l'avions, disons, au début même du siècle, même sous Mitterrand, voyez-vous. Je crois que de ce point de vue, M. Macron exprime aussi la faiblesse de la société. Il n'est pas responsable de ce qu'il est, il est le responsable de lui-même, disons. Mais il est créé par les conditions de vie, il est créé par le certain relâchement moral qu'il y a, voyez-vous. On n'a pas des gens qui dominent véritablement les affaires. Que ce soit d'un reste dans beaucoup de domaines, pas seulement domaine intellectuel, aussi domaine de l'enseignement, par exemple, que je connais bien, je vois que les gens dominent de moins en moins leur matière. Et donc il y a un laisser-aller, voyez-vous, ce qui donne justement l'audace à des leaders israéliens, par exemple, de faire des demandes qu'ils n'auraient jamais osé faire, par exemple, même sous Mitterrand, ah non, pas du tout, même sous Chirac. Non, il y a un état de décomposition de la société, en général dans le monde, en France en particulier, à mon avis, qui fait qu'on est de plus en plus faible comme un organisme qui s'affaiblit et naturellement peut être emporté par des conditions, disons, qui laissent insensibles d'autres personnes. Je crois que notre État, notre pauvre pays, est un État, je dirais bien que c'est l'État malade de l'Europe même, voyez-vous. Il n'y a qu'une seule chose qui nous sert, qui est la force du pays aujourd'hui, c'est l'armement atomique, la flotte, des choses comme ça. Oui, bien sûr, là-dessus, nous avons encore des armes, mais sur le plan économique et sur le plan humain surtout, je ne crois pas que M. Hugon me dise le contraire, sur le plan humain, nous avons véritablement affaire à des personnes, des qualités qui sont je dirais, moi, qui ai connu l'Europe, bien inférieure, en tout cas, à celle de nos voisins, en particulier même espagnols et allemands, voyez-vous. Je connais bien les deux pays maintenant, et je dois dire que je sens qu'il y a une maladie française, un mal français, comme disait M. Peyrefitte, ancien ministre, qui est très profond, voyez-vous. Et malheureusement, nous ne savons en sortir en France que par des révolutions. Les autres pays s'en sortent par des réformes, voyez-vous, et nous des révolutions. Mais pour faire une révolution, je ne crois pas que notre jeunesse soit prête. Notre jeunesse est trop marquée par les illusions, voyez-vous. Il faut souffrir, et je crois que M. Hugon vous le dit, nous sommes appelés à souffrir encore, et bien sûr à mûrir dans les souffrances. Ça, évidemment, c'est un des bienfaits de la providence divine, bien sûr.
Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Et quant à moi, je vous laisse toutes et tous à la garde de Dieu. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
En France, environ un millier de militaires ont mis en garde contre une guerre civile dans le pays. Dans un texte publié sur le blog Place Armes et relayé par le site de Valeurs Actuelles ce mercredi 21 avril, une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gardés et plus d'un millier d'autres militaires appelaient le président de la République à défendre le patriotisme. Avec Pierre Dortiguier, politologue français, nous avons analysé l'importance de cette lettre signée par ces militaires français.
Eh bien, cette lettre, qui est en effet signée par des milliers de militaires français, à notre avis, trois formes d'importance, si je puis dire. La première, d'abord, c'est une réaction qui est tout à fait naturelle, qui reçoit un certain soutien dans l'opinion publique, bien sûr, disons une réaction au propos de M. le Président de la République chez nous, qui dit qu'il faut déconstruire le passé de la France. Bon, ce qui était une absurdité, bien sûr, on ne déconstruit pas un passé, évidemment. Mais disons qu'on veut donner un effet de la France, disons l'image d'un pays dans lequel, disons, l'histoire passée n'est pas très fixe. Les valeurs sont un peu à la carte, voyez-vous. C'est-à-dire que on accepte toutes les religions, à condition qu'on accepte aussi la propagande anti-religieuse. On essaie de sortir la foi, je dis la foi, la religion même, de l'esprit de la jeunesse. On a fait, comme vous l'avez vu en Orient, quand même l'éloge du blasphème. C'est quand même fait par un homme politique, le premier magistrat du pays. Tout ceci, bien sûr, déplaît profondément à une bonne partie de la population, et l'armée et les traditions militaires aussi sont affectées par cela. On considère, disons, que les valeurs de sacrifice, les valeurs de soi, qui sont celles de l'armée, sont des valeurs, disons, secondaires par rapport à des perspectives commerciales. On donne par exemple comme but à une intervention militaire, non pas réellement la défense du pays, qu'on ne voit plus, mais la défense d'intérêts particuliers, voyez-vous. Les militaires savent très bien ce qui se passe à l'extérieur du pays. Ils savent très bien, par exemple, que l'histoire du Yémen, par exemple, est une histoire de massacre de population réduite à la misère pour la moitié. Ils le savent. En Afrique aussi, je crois que l'expérience militaire africaine a joué un très grand rôle dans cette réflexion de l'armée, car ils comprennent très bien que là-bas, ce n'est pas la France qui est défendue, mais des intérêts matériels, voyez-vous, les plus sordides, et ceci au détriment même, bien sûr, de l'avenir des peuples africains. L'Afrique, vous savez, a toujours joué un rôle très important dans l'armée française. Bien, il y a également, disons, l'immoralité générale dans le pays. On peut dire que c'est un phénomène mondial, bien sûr, mais la France est touchée.
Gradés US, Russie, Chine, Iran peuvent combler le vide au Moyen-Orient. Le chef du commandement central des États-Unis reconnaît la perte de la domination des États-Unis donc sur le Moyen-Orient. Il insiste également sur le rôle croissant de Moscou, Pékin et Téhéran. Comme souvent, ce que les politiciens n'oseront dire, les militaires l'exposent ouvertement. C'était il y a quelques jours le cas pour Frank McKenzie, l'un des principaux hauts gradés de l'armée états-unienne et chef du commandement central des USA, donc le CENTCOM, la structure du département de la défense américaine, responsable des opérations militaires des États-Unis au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud, qui a exprimé sa position auprès de la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis. Plusieurs points méritant intérêt ont été soulevés dans ces déclarations, notamment du point de vue du rôle croissant des grandes puissances partisanes de la multipolarité, Chine, Russie, Iran, qui ont été bien évidemment citées. En ce qui concerne Pékin et Moscou, McKenzie affirme que les deux pays pourraient remplir le vide dans la région stratégique du Moyen-Orient. Évidemment, dans une constatation amère de la réalité pour les États-Unis, les deux pays tirent parti de leur proximité avec la région, de leurs relations historiques et d'un déclin perçu des États-Unis afin d'établir et renforcer des relations opportunistes. Tout en précisant que selon lui, la Russie joue le rôle de spoilier pour les États-Unis en utilisant des moyens militaires, des opérations d'influence et des activités de la zone grise pour saper et perturber l'influence américaine. La Chine, en revanche, utilise principalement des moyens économiques pour établir des routes régionales dans le but à long terme d'étendre sa présence militaire et ainsi sécuriser les routes vitales de l'énergie et du commerce. Pour le général américain, le Moyen-Orient est et a toujours été un carrefour d'intérêts mondiaux et une arène historiquement privilégiée pour les superpuissances étrangères afin de rivaliser pour leur influence, leurs ressources et leur accès. L'Iran n'a pas été lui aussi oublié. En effet, la République islamique représente sans le moindre doute, au même titre que Pékin et Moscou, un défi de taille pour Washington dans la région. McKenzie donc affirme que l'Iran représente une menace quotidienne pour les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient. On peut deviner donc en premier lieu pour Israël et l'Arabie Saoudite, alors que la supériorité militaire américaine dans la région diminue. L'autre citation très révélatrice, toujours en rapport avec Téhéran, est la suivante. L'utilisation généralisée par l'Iran de drones de petite et moyenne taille pour la surveillance et les attaques signifie que pour la première fois depuis la guerre de Corée, donc en 1950-1953, nous opérons sans supériorité aérienne totale. Une constatation de la réalité qui peut sonner comme un véritable son de cloche des plus alarmants. En termes d'analyse de ces propos du haut responsable militaire états-unien et de perspective, il faut reconnaître à McKenzie, malgré une hostilité non violée vis-à-vis des principaux adversaires sur l'arène internationale de Washington, que ces propos traduisent une réalité qu'une large partie des représentants de l'établissement politique américaine comme occidental, de façon générale, n'ose pas aborder. Ces derniers préférant lancer constamment des accusations, le plus souvent sans présenter la moindre preuve tangible, s'obstinent par la même occasion à poursuivre la mission impossible de promotion du concept unipolaire terminé. Et ce, aussi bien du côté des élites politiques que médiatiques de l'Occident. La réalité est pourtant telle qu'elle est. Le concept multipolaire ne fera pas marche arrière pour faire plaisir aux nostalgiques d'une époque où une extrême minorité, bien souvent n'ayant même pas la légitimité de représenter ses propres peuples, dominait l'écrasante majorité planétaire. Il faudra donc accepter la libre concurrence, mais aussi les règles qui en ressortent. Peut-être qu'à cet effet, l'établishment politico-médiatique occidental devrait en effet être un peu plus à l'écoute des analyses et des représentants militaires qui, pour certains d'entre eux, ont au moins donc le mérite de comprendre et de facto de reconnaître le basculement du monde contemporain. Évidemment, sans être des amis ou des partisans, mais c'est déjà mieux ainsi. Une constatation franche de la réalité dans l'adversité reste meilleure que les déclarations sans fin quant au prétendu rôle exceptionnel des États-Unis et de ses acolytes. Un discours dans lequel non seulement ne se retrouve pas la large majorité des peuples du monde, mais également une part importante des populations de pays occidentaux. Quant à la Chine, la Russie et l'Iran, les relations de triumvirat ne sont que propres au processus naturel pour trois grandes civilisations mondiales, et cela avec ou sans Washington sur leur chemin.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.